Chapitre 13. Les félicitations du capitaine Raviez. Lucie, Pinot, simple flic, n'en revenait pas encore. L'autopsie avait confirmé ses affirmations. Les lividités, des taches sombres qui apparaissent sur les morts aux endroits où le corps est en contact avec une surface, prouvaient le déplacement du cadavre au moins 3 quarts d'heure après le dernier souffle. Ce qui impliquait que l'assassin était resté sur place après son office, longtemps, très longtemps, afin de figer ce sourire effroyable sur les lèvres de l'enfant. Le moustachu, d'un commun accord avec le commissaire, la plaçait officiellement sur l'enquête, sous les ordres directs du lieutenant Norman. Pas de tâche vraiment définie, une espèce d'électron libre à la fois observateur, preneur de notes et donneur de coups de téléphone. Bref, des mains en plus pour pallier le manque d'effectifs. Une clé des champs qui lui valut le droit, contre toute attente, d'assister à la première réunion de débriefing. La magie de Noël pénétrait-elle les esprits de ses supérieurs? Pour le moment, l'excitation surpassait l'appel de l'oreiller. La plongée dans les méandres de l'enquête criminelle s'érigeait en une forme nouvelle de défi. Un accouchement cérébral après ses années de paperasse, d'opérations répétitives et transparentes. Elle vivait enfin sa passion, matérialisait en quelque sorte ses lectures, ses explorations abyssales et s'en réjouissait. « Ce n'est pas un jeu, Lucie, ni une chasse au trésor. Il n'y a que mort et désolation au bout du chemin. Es-tu consciente de cela, au moins ?»« Elle le prend comme un jeu si elle le veut, avec ou sans règles. Si le seul moyen qu'elle ait pour s'épanouir passe par la voie du sang, ainsi soit-il. » Alors qu'elle gagnait la salle de réunion, le spectre tenace de sa garde nocturne lui ôta son sourire. Elle devrait, sous peu, affronter les plaintes, les voisins râleurs, les tordus de la bouteille, exercer sa réelle fonction en définitive. Elle se prit à rêver du lit moelleux qui l'accueillerait à l'aube. Comment tiendrait-elle une nuit complète sans s'endormir ? « Start !» jeta le commissaire Vallée comme s'il annonçait le départ d'un tiercé. Vallée. Un masque de glace sur un corps en ébullition, le ton sec comme un chardon. Meneur d'hommes et d'idées. Dans la salle de réunion, à ses côtés, les lieutenants Colin et Norman, Raviez, Henbel, un lieutenant-colonel de la gendarmerie et Clément Marceau, le responsable de la cellule de dactyloscopie. Des feuilles dans tous les coins, des cartes de la région, Flandre, Audomarois, Boulonnais, Calaisie, des faciès croqués par la fatigue et des bâillements discrets. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Michiel, ici présent, pilote les opérations de recherche du corps de Bertrand Cunard, attaqua le commissaire. Notre étroite collaboration permettra de coordonner les différentes lignes d'investigation et de pallier le manque de ressources. Je ne vous présente plus Clément Marceau, notre pro de l'empreinte. J'ai insisté pour qu'il soit à nos côtés, vous allez comprendre pourquoi. Bon, Raviez, tu résumes la situation très brièvement, s'il te plaît. Clic de souris, une photo de la fillette prise sur la scène du crime. Une lourdeur malsaine balaya la pièce, creusa les visages. Lucie retenait sa salive alors que Raviez, impassible, se mettait à relater les faits. Il détailla les découvertes dans l'entrepôt, confirma que le sang découvert sur l'asphalte appartenait bien à Cunard et que les chiens de la brigade canine avaient perdu la trace du chirurgien au niveau des marques de pneus, ce qui induisait l'embarquement de son corps. « Très bien, » dit le commissaire. « Les éléments de l'enquête à présent. Lieutenant Colin, qu'a donné l'interrogatoire de la mère ?» Colin, 42 ans, désert de fossiles, rongé par les soucis, l'envie de bien faire, sacrifié sur la croix du travail. Très choqué psychologiquement, difficile à interroger, suivi à l'hôpital Herbeau. La petite fille a été enlevée la nuit du 19 décembre alors que le père opérait à Londres et que la mère était en congé. En cette période de l'année, le Touquet ressemble à une ville fantôme. Boutiques fermées, quasiment aucun résident, plage déserte. Des alarmes veillent sur la majeure partie des villas inhabitées, mais les Cunard la branchent uniquement quand ils s'absentent. Le ravisseur s'est infiltré à l'arrière de leur jardin, a brisé la vitre en cognant sur de l'adhésif pour éviter le bruit. Il s'est payé le luxe d'emmener des tas de vêtements et des chaussures pour la petite. Une fois réveillée, la mère a trouvé une lettre dans le lit vide, signalant qu'il ne fallait en aucun cas prévenir la police, ni avant, ni après la remise de rançon, au risque de représailles. Le ou les ravisseurs réclamaient 2 millions d'euros. Le mari est rentré d'urgence. Durant 3 jours, d'autres lettres, postées de Dunkerque, Petite Sainte et autres patelins du coin, ont suivi, indiquant au Cunard la marche à suivre pour récupérer Mélodie. Le mari a puisé dans un compte en Belgique, billet non marqué, en coupure de 100 euros. Vous connaissez la suite. « Les Cunard habitent au Touquet toute l'année ?» interrogea Raviez. « Il s'agit juste d'un port d'attache. Les parents s'absentaient très souvent, le père ne rentrait que le week-end. Ils confiaient leur fille à Martine Cliquenois, à la fois infirmière, femme de ménage, seconde maman, dévouée à Mélodie jour et nuit. Elle skiait dans les Alpes au moment du rapt. Les Cunard possédaient aussi une chienne, Claquette, un Yorkshire. Tué. Évaporé. Le lieutenant Colin trempa ses lèvres dans un café brûlant avant de continuer. Des tonnes d'empreintes ont été relevées sur place, mais la scène hyper contaminée risque de les rendre inutiles ou inexploitables. J'ai sous la main la liste des 110 employés que Madame Cunard a licenciés dans l'année 2003, ainsi que la copie des lettres d'insultes qu'elle et son mari ont reçues. Certaines manuscrites, d'autres réalisées à l'aide de coupures de magazines. Nous allons orienter en priorité nos recherches vers la piste des licenciés. Le labo travaille à 100% sur l'étude des lettres. Avec les prélèvements ADN de ses employés et les traces que nous relèverons sur les papiers ou enveloppes, il sera facile par comparaison de savoir si notre meurtrier fait partie du lot. Le capitaine Ravies le coupa, des feuilles volantes plein les mains. « Je pense qu'on peut faire une croix dessus. Il y a une demi-heure, j'ai reçu les premiers résultats du labo. » Lucie glissa discrètement une main devant son visage, sentant que ses joues sont pourprées. Ses conclusions, elle les connaissait en partie, parce qu'elle avait volé de l'information confidentielle. Le lieutenant Norman nota son embarras avant de détourner la tête. Ravies poursuivit. « Les timbres des lettres envoyées par le ravisseur ont simplement été collés avec un produit de grande surface. » Le SDA, un appareil capable de révéler les impressions involontaires invisibles à l'œil nu, quant à lui est resté muet. Je crains donc que la piste des lettres ne nous mène pas très loin. Nous avons plus de chance en recherchant les anciens employés au contact d'un loup. Pardon, s'étonna Vallée. Commissaire, vous avez assisté à l'autopsie et savez que le légiste a trouvé un poil collé au fond du larynx, immédiatement envoyé au labo. J'ai les résultats. Alors, s'énerva le chef. Ils sont formels, il s'agit d'un poil de loup. Vivant ou mort dans les 2 mois. Le commissaire glissa ses 2 mains ouvertes sur sa face de roche avant d'annoncer. De la pure folie! Qu'est-ce qu'un... Passons, nous verrons après. Clément, embraye sur les empreintes digitales, s'il te plaît. Restons dans cette atmosphère de fiction. Ouvrez grandes vos oreilles. Clément Marceau, monsieur empreinte. Cheveux en brosse, lunettes rondes métalliques devant 2 yeux pénétrants comme des rayons X. Un cas troublant, ma foi. Les empreintes digitales existent grâce aux orifices des glandes sudoripares couverts au sommet des crêtes constituant le labyrinthe digital. Normalement, je dis bien normalement, les crêtes papillaires subsistent même dans les conditions les plus défavorables. Tirage de peau, pression sur le doigt, déformation. Qu'on se brûle superficiellement, se coupe, qu'on ait des ampoules ou des verrues, les détails papillaires se reconstituent sans cesse à l'identique. De la vie intra-utérine à longtemps après la mort, nous conservons toujours les mêmes empreintes. Et elles sont indélébiles. Et pourtant, notre individu n'en possède pas, abrégea le commissaire. Exact. Pas au moment où il a agi, en tout cas. Des groupes de travail d'Interpol spécialisés dans le domaine de la dactyloscopie ont dressé un inventaire des cas possibles d'invisibilité digitale, permanente ou temporaire. J'ai ici une liste des principaux produits chimiques qui détériorent à plus ou moins long terme le derme et effacent ainsi l'identité. Des acides, des bases fortes, un tas de dérivés. On trouve aussi les brûlures par le feu, les plus destructrices. Un procédé plus doux, bien connu des esthéticiens, est ce qu'on appelle la microdermabrasion à microcristaux pulsés. Il s'agit d'appareils spécialisés qui lissent la peau et peuvent, à leur puissance maximale, effacer temporairement les crêtes. Pour les autres possibilités, il en va de l'imagination de chacun des tarés qui peuplent notre planète. Certains vont se frotter les doigts sur du papier de verre pendant des heures, d'autres vont se trancher la peau avec une lame de rasoir. Ce n'est pas du baratin, ça s'est déjà vu avec des tueurs en série américains, bien plus informés sur les techniques de la police scientifique que la plupart d'entre nous. Comme vous voyez, l'éventail des possibilités est large. Le capitaine Ravies roula les pointes de sa moustache avant d'intervenir. À mon avis, l'invisibilité digitale de notre ravisseur est involontaire. Pourquoi se serait-il mutilé les doigts alors qu'il lui suffisait de porter des gants? En plus, il faisait extrêmement froid la nuit dernière. Les gants de laine étaient de mise. Vous avez raison, répondit le technicien. Les cas de mutilation volontaire se retrouvent à 98% chez des tueurs sadiques très méticuleux, qui éprouvent le besoin de toucher leurs victimes et les objets qui les entourent. Cela ne semble pas le cas ici, étant donné que la petite n'a pas subi de sévices sexuels. D'autant plus qu'il aurait effacé ses traces de pas s'il avait été aussi méticuleux, intervint le commissaire. Pour résumer, nous recherchons quelqu'un aux doigts brûlés ou rongés par l'acide. À peu près, sauf que nous ne disposons que des traces de pouces et d'index, embraya l'expert. Et les marques de brûlure, surtout chimiques, peuvent être difficiles à déceler si on n'a pas le nez sur la zone touchée. Bref, il ne faut pas vous attendre à tomber sur Elephant Man. Quant au fait qu'il ne portait pas de gants, ses mains seraient devenues insensibles au froid. Ouais. On n'a plus qu'à interroger tous les employés des usines chimiques du coin. Merci pour les infos, Clément. Tu es libre, si tu le souhaites. L'homme ne se fit pas prier. Il disparut avec un « joyeux Noël » discret au bord des lèvres. Le commissaire poursuivit. Intéressons-nous un peu au chauffard. Enbel, à toi. Tu as appelé les assurances, les garages du coin ? Lucie décrocha ses yeux de l'image projetée sur l'écran. Un chatouillement inconscient l'interpellait dans ce cliché, sans qu'elle pût en capturer la substance. Quoi exactement ? La position du corps, la couleur de la robe de chambre, le sourire effrayant ? Elle poussa une liste au milieu de la table. Cette nuit, des accidents ont été signalés aux assurances, mais les constats ne sont pas encore remontés jusqu'aux agences. J'ai demandé une copie dès qu'ils les recevront. Quant aux différents réparateurs automobiles des environs, rien qui corresponde à ce que nous recherchons. Des voitures amochées sont arrivées, mais les accidents ont eu lieu bien avant cette nuit. De toute façon, si notre chauffard a eu l'intelligence de gommer les traces de son passage, il ne se serait pas dénoncé de cette manière. Peu importe, il faudra quand même les rappeler. On ne doit écarter aucune piste. Tu t'en chargeras. Bien, commissaire. Bien, chef. Oui, chef. À vos ordres, chef. Messieurs, les résultats de l'autopsie à présent, de façon très succincte et simplifiée. La strangulation a causé la mort aux alentours de minuit. D'après le légiste, la pression autour de la gorge était extrêmement faible. Les lésions vasculaires et, je cite, « vertébromédulaires » sont peu nombreuses alors que les enfants marquent plus facilement que les adultes. Le praticien a été particulièrement surpris, affirmant que l'assassin a juste mis la force nécessaire pour la tuer sans aucun acharnement, ce qui tendrait à exclure l'acte de rage précipité. Comme l'avait fort justement remarqué Enbel, le tueur s'est attardé au moins trois quarts d'heure après la mort pour fixer le sourire et disposer le corps, il orienta un stylo vers la photo, de cette façon. Ensuite, il piqua du nez dans ses feuillets. Ah oui, le poil de loup. Je n'en reparlerai pas puisque Raviez l'a fait. L'estomac vide et les airs ganglionnaires légèrement atrophiés impliquent une carence en nourriture de plusieurs jours. Le cuir chevelu présentait de nombreuses lésions superficielles, apparemment provoquées, vu le parallélisme des marques, par un brossage intensif des cheveux. Très intensif, presque à sang. « Pourquoi ?» voulut intervenir Norman. « Laissez-moi juste terminer, » trancha le commissaire en agitant la main. « Dernier point. On a trouvé un indice intéressant durant le déshabillage. Des microfibres piégées dans les sillons des semelles. D'après les analyses, il s'agirait de fibres issues de l'écorce de résineux. » « Le tueur habiterait à proximité d'une forêt de pins ?» avança le lieutenant-colonel de gendarmerie. « Pas forcément. Les experts ont comparé les prélèvements avec les pins de la région et les structures organiques ne coïncident pas. Les recherches sont en cours. » Il sortit un paquet de cigarettes. « Ok, on planche une demi-heure sur les éléments dont on dispose. Lisez en diagonale les copies des différents rapports, imprégnez-vous-en, formulez vos questions. Après, on dresse un bilan des idées au tableau. En route !» Les nez s'écrasèrent sur les feuillets. Six cerveaux bouillonnants à la poursuite d'un tueur. Le dernier regard que lança Lucie sur l'écran la priva subitement d'air. Elle serra les poings en cachette sous la table. L'image de cet enfant aveugle qui souriait, bien coiffé, avec ses chaussettes blanches, sa robe de chambre beige ornée d'un ruban rouge, lui apparut soudain comme un symbole évident. Un symbole que seule une femme pouvait déceler. Un frisson lui hérissa tous les poils.